This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Kenji Girac a voulu simuler un suicide. C'est ce qu'a affirmé le procureur de la République de Mont-de-Marsan ce jeudi après-midi. Des analyses ont permis de confirmer que Kenji Girac était fortement alcoolisé et qu'il avait consommé de la cocaïne. Tous les détails sur cette affaire dans un instant. Près de 7 Français sur 10 favorables à le renvoi de migrants vers un pays tiers. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Mardi, le Parlement britannique a approuvé une loi autorisant le renvoi de demandeurs d'asile vers le Rwanda. Alors, quelles conséquences pour notre pays? Notre reportage dans le Pas-de-Calais, dans ce journal. Notre Europe peut mourir. Emmanuel Macron a prononcé un discours à la Sorbonne ce jeudi. Le chef de l'État a notamment évoqué plusieurs pistes pour une Europe plus forte. Une prise de parole du président qui intervient à quelques semaines maintenant des élections européennes. Et puis les ailes du célèbre Moulin Rouge se sont effondrées la nuit dernière. Aucun blessé n'est à déplorer. Les raisons de cet incident restent pour l'heure inconnues. C'est la première fois qu'un accident de ce type se produit depuis la création du cabaret. C'était il y a près de 135 ans. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan s'est donc exprimé 3 jours après la blessure par balle au thorax de Kenji Girac. Le chanteur dit avoir voulu simuler un suicide après une dispute avec sa compagne. Des analyses ont donc permis de confirmer que Kenji Girac était fortement alcoolisé et qu'il avait consommé de la cocaïne. Audrey Berthaud, Augustin Donadieu et Florian Pau.
Une tentative de suicide ratée ou une simulation de suicide, ce sont les conclusions du procureur de la République de Mont-de-Marsan. Pendant plus d'une heure, il est revenu sur le déroulé de la nuit du drame. Selon lui, Kenji Girac aurait simulé un suicide pour faire peur à sa femme.
Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, à vouloir l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il a entendu parler de départ, qu'il a eu un moment de panique et qu'il a, à son tour, voulu lui faire peur. En quelque sorte, il a simulé un suicide.
Interrogé également, sa compagne aurait affirmé aux enquêteurs que le chanteur était dépendant à l'alcool et à la drogue.
Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant durer jusqu'à 48 heures, période dans lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi, et des situations qui étaient de plus en plus dures à gérer. Elle a été interrogée sur d'éventuelles consommations de stupéfiants de la part de Kenji Girac. Elle évoque effectivement une consommation régulière de cocaïne à raison d'une à deux fois par semaine.
Fortement alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants ce soir-là, il aurait donc pointé l'arme sur lui. Selon le procureur, un tir accidentel est jugé impossible et un tir effectué par un tiers n'est pas compatible avec les constatations. Les deux hypothèses restantes ne relèvent pas du pénal. Cette procédure devrait donc se terminer par un classement sans suite.
Dans la ville de Lyon, un homme exaspéré par les vols à la roulotte décide de se faire justice lui-même. Habitant du quartier de la Part-Dieu, sa voiture a été vandalisée à 4 reprises dans le but de voler ce qu'il y avait à l'intérieur. Il a donc décidé de piéger lui-même ses voleurs, ce qui a évidemment interdit par la loi. Si vous êtes victime ou témoin de ce genre de fait, il faut impérativement appeler la police. Les images commentées par Aminat Adem.
On lui a cassé la vitre.
Sur ces images, ce Lyonnais montre plusieurs véhicules dont les vitres ont été brisées. Des vols dits à la roulotte, qui consistent à voler des objets à l'intérieur des voitures. Excédé par les nombreux vols qu'il a subis, l'habitant du quartier de la Part-Dieu à Lyon décide de les dénoncer. Un phénomène qui, comme l'explique ce policier, touche la plupart des quartiers de Lyon.
Les auteurs de ces faits en fait, décident parfois d'opérer dans certains quartiers et puis ensuite changent de quartier quelques jours plus tard.
L'auteur de ces vidéos ne s'arrête pas là. Il décide de piéger ces voleurs dont il dit avoir été la victime à 4 reprises. Sur une des vidéos qui depuis a été retirée des réseaux sociaux, on le voit pourchasser les voleurs qu'il a pris en flagrant délit de vol. Un acte qui est bien sûr puni par la loi, comme le rappelle ce policier.
Il faut éviter de se faire justice soi-même. Les préconisations qu'on peut donner si une personne constate qu'on dérobe des objets dans son véhicule, c'est d'appeler le 17.
L'habitant du quartier de la Pardieu explique notamment avoir porté plainte et averti les services compétents en vain. L'adjoint au maire à la sécurité de Lyon a réagi sur cette affaire.
Même si la délinquance est globalement en baisse à Lyon, les vols à la roulotte restent bien trop fréquents. Avec la hausse des postes de policiers municipaux et l'installation de caméras mobiles, nous agissons pour répondre aux légitimes demandes des habitants.
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, en 2023, plus de 9000 vols dans les véhicules ont été constatés à Lyon.
Près de 7 Français sur 10 sont pour que la France s'inspire de la Grande-Bretagne et expulse les migrants en situation irrégulière vers un pays tiers comme le Rwanda. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le Journal du Dimanche. Vous le voyez, 67% des Français ont répondu oui et 32% ont répondu non. Après une interminable bataille, le Parlement britannique a donc adopté cette loi mardi dernier. La plupart de ces migrants traversent la Manche depuis les plages du Pas-de-Calais. Alors quelles conséquences cette loi pourrait-elle avoir en France? Le sujet de Mathieu Devez, Maxime Leguet et Fabrice Elsner.
C'est ici, à Vimereux, dans le Pas-de-Calais, que 5 migrants ont perdu la vie mardi dernier. Ils tentaient de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Le jour même, le Parlement britannique adoptait une loi controversée pour lutter contre l'immigration clandestine. Elle permet notamment d'expulser au Rwanda les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Une loi vivement critiquée, ici, dans le Pas-de-Calais.
Je trouve ça hyper choquant. Renvoyer des personnes qui ne pensent qu'à une chose, c'est d'arriver dans un pays qui, soi-disant, démocratique.
Horrible. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire au Rwanda, franchement?
Quand ils traversent, ils risquent leur vie et souvent ils meurent. C'est ça qui est horrible aussi. Enfin...
La loi britannique aura-t-elle des répercussions en France? Certains habitants interrogés redoutent que de plus en plus de migrants s'installent dans le Pas-de-Calais par crainte d'être expulsés au Rwanda.
On ne peut pas accepter tous les migrants, c'est sûr. Hein. Mais quand on les voit, des enfants, des femmes et tout, c'est quand même malheureux, quoi.
Le gouvernement, il devrait déjà faire quelque chose. Il y a trop d'immigrants ici qui défilent à Vimereux.
On les retrouve à errer à droite et à gauche.
On est désespérés, quoi. Enfin, on ne sait pas quoi faire. On est démunis, on ne sait pas quoi faire.
Depuis le début de l'année, le nombre de personnes ayant traversé clandestinement la Manche a augmenté de plus de 20% par rapport à 2023.
Autre grand titre de l'actualité, Emmanuel Macron a prononcé un discours sur l'Europe à la Sorbonne. Le chef de l'État a dressé son bilan de l'Union européenne. Il a notamment évoqué plusieurs pistes pour une Europe plus forte. Une prise de parole du président qui intervient à quelques semaines des élections européennes. Le sujet signé Maxime Lavandier. Regardez.
Devant une assemblée composée de ministres, députés et ambassadeurs européens réunis à la Sorbonne, Emmanuel Macron s'est livré sur sa vision concernant le futur de l'Europe. Une Europe que le chef de l'État juge fragile, bouleversée par les crises successives liées à la pandémie et à la guerre en Ukraine.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant.
En conséquence, Emmanuel Macron plaide pour une Europe puissante.
C'est une Europe qui se fait respecter et qui assure sa sécurité.
Dans les prochains mois, j'inviterai tous nos partenaires à bâtir cette initiative européenne de défense qui doit d'abord être un concept stratégique dont nous déduirons ensuite les capacités pertinentes.
Pour le chef de l'État, une Europe puissante est une Europe qui maîtrise ses frontières. Pour cela, il propose une structure politique au niveau européen sur les sujets de migration, de criminalité et de terrorisme.
Je veux que le Conseil Schengen devienne un véritable Conseil de sécurité intérieure de l'Union.
Un discours qui intervient à quelques semaines du scrutin aux européennes est perçu comme une entrée en campagne par l'opposition, au moment où son camp amené par l'eurodéputé Valérie Ayer peine à décoller dans les sondages.
Allez, on va parler des JO. Dans ce journal, des primes seront accordées aux conducteurs de métro et de RER pour les Jeux Olympiques de Paris. La direction de la RATP propose 1600 euros pour ceux qui travailleront du 22 juillet au 8 septembre prochain. Des primes qui pourront aller jusqu'à 2500 euros pour certains salariés. J-92 avant le début des JO de Paris. Les drapeaux des JO étaient dans la cour de Matignon ce jeudi en présence de Tony Estanguet, Amélie Oudéa-Castéra et Gabriel Attal. Le Premier ministre s'est exprimé et il a affirmé que les JO étaient une occasion de partager nos valeurs dans un monde bouleversé. Je vous propose donc d'écouter le Premier ministre.
Amélie l'a dit, dans 92 jours, le monde aura les yeux rivés vers la France. Et à cette occasion, nous aurons l'occasion, l'opportunité, je crois, dans un monde extraordinairement bouleversé, traversé par des tensions, d'envoyer un message et de partager nos valeurs d'une manière absolument exceptionnelle.
Le préfet de police de Paris a évoqué la sécurité des Jeux Olympiques ce jeudi. Laurent Nunez a notamment détaillé les différents périmètres mis en place dans la capitale pour garantir le bon déroulement de la cérémonie d'ouverture des JO. Si toutes les conditions sont réunies, elle se tiendra le 26 juillet prochain sur la Seine. La délinquance dans la capitale est en recul à l'approche des JO, c'est ce qu'a affirmé Laurent Nunez ce jeudi. Écoutez.
La délinquance sur les sites touristiques à Paris, elle s'effondre grâce aux efforts, elle baisse significativement grâce aux efforts des policiers nationaux, des policiers municipaux. Je veux saluer ce travail parce qu'à l'approche des Jeux, c'est un signal très fort que nous envoyons. Quand on baisse les atteintes aux personnes de plus de 50% sur le Champ de Mars, Trocadéro, Tour Eiffel, entre 2023 et 2022, ça n'est pas rien. Et ça nous met très loin des polémiques qu'on entend parfois fleurir ici ou là. Donc Paris est une capitale qui est aussi une capitale sûre. On fait baisser la délinquance et ce sera évidemment le cas pendant les Jeux.
Dans le reste de l'actualité, le conflit au Proche-Orient enflamme les universités américaines. La situation est extrêmement tendue sur plusieurs campus américains. C'est le cas au Texas, en Californie ou encore à New York. Des manifestants pro-palestiniens affrontent les forces de l'ordre. Plus d'une centaine de personnes ont été interpellées depuis le début de la semaine. Tancredi Hotel.
Sur le campus de l'université du Texas à Austin, ou sur celui de l'Université de Californie du Sud à Los Angeles, des manifestants pro-palestiniens viennent défier la police. Après les dizaines d'interpellations en début de semaine dans plusieurs universités américaines, la journée d'hier a été le théâtre d'un regain de tension entre forces de l'ordre et étudiants américains pro-palestiniens. En visite à l'Université de Columbia à New York, Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants du Congrès, a demandé plus de fermeté.
Si la situation n'est pas maîtrisée rapidement et si ces menaces et intimidations ne cessent pas, le moment est venu de déployer la garde nationale. Nous devons mettre de l'ordre sur ces campus. Ces manifestants sont menaçants, intimidants et ils disent qu'ils s'en prendront aux étudiants juifs.
Sur le campus de l'université new-yorkaise, où les manifestants ont installé un campement depuis la semaine dernière, beaucoup d'étudiants sont inquiets.
Je ne me sens pas en sécurité parce que beaucoup de ces manifestants ont tendance à être assez violents ou à proférer des insultes antisémites. Lorsque je viens sur le campus, je cache souvent mes symboles juifs pour ma propre sécurité.
Il y a vraiment beaucoup de tension. Beaucoup de mes amis sont restés debout jusqu'à 5 ou 6 heures du matin. Ils n'arrivaient pas à dormir à cause de tout ce qui se passait.
Hier, la Maison-Blanche a également réagi, réaffirmant que le président Joe Biden soutenait la liberté d'expression dans les universités, tout en dénonçant toute rhétorique haineuse ou cas de violence.
Paris juge inacceptable la condamnation à mort du rappeur iranien Tomaj Salehi. Ce célèbre artiste de 33 ans avait été arrêté en octobre 2022 pour son soutien au mouvement de contestation en Iran. Un mouvement déclenché après la mort de Mahsa Amini. L'avocat de Tomaj Salehi était sur CNews ce jeudi. Maître Dylan Slama salue le courage de son client, on l'écoute.
Il a passé un peu plus d'un an et demi en détention, dans une prison de Ispahan qui est connue pour ses conditions extrêmement difficiles. Il en est sorti, et quand il en est sorti récemment, après une condamnation de 6 ans et quelques mois de prison, il a eu l'outrecuidance, et en tout cas je trouve moi le grand courage, de parler de ce qu'il a vécu en prison, et c'est ce qui lui a été reproché dans un deuxième temps, et ce qui a conduit à sa réincarcération. Donc on a affaire encore une fois à quelqu'un qui prend des risques inconsidérés pour son peuple, pour son pays, et dans le cadre de ce mouvement Femme, Vie, Liberté, qui vraiment je trouve nous bouleverse tous, et peut-être pas encore à la mesure qui devrait être celle de ce mouvement.
Allez, direction l'Italie. Dans ce journal, visiter la ville de Venise va devenir payant. Il faudra désormais s'acquitter d'un billet d'entrée à 5 euros pour une seule journée. L'objectif de cette mesure inédite est de lutter contre le tourisme de masse dans la ville. Mais vous allez voir que certains habitants protestent contre la mise en place de ce ticket payant. Explication Audrey Berthaud.
C'est une première mondiale. À partir de ce jeudi, les visiteurs de passage devront débourser 5 euros pour entrer dans Venise. À l'entrée de la ville, ils doivent désormais présenter leur ticket sous forme de QR code. Une mesure drastique pour lutter contre le surtourisme, pas très bien accueilli ce matin par les voyageurs.
Ce n'est pas juste. Je considère Venise comme la plus belle ville du monde et donc priver une personne avec un petit budget de la possibilité de venir ici pendant une heure ou deux pour profiter de cette ville, c'est vraiment une honte.
Des résidents de la ville ont également manifesté leur mécontentement. Pour le conseiller municipal de Venise, le but est de trouver un nouveau système face à l'excès de visiteurs.
Nous devons trouver un équilibre entre les résidents, la communauté et les touristes. Nous essayons donc simplement de décourager les touristes d'arriver dans ces 29 jours d'expérimentation et de trouver une nouvelle façon de savoir à l'avance s'il y aura du monde à Venise le lendemain.
29 jours de grande affluence ont été choisis pour tester cette taxe entre mai et juillet. Tout contrevenant sera exposé à une amende pouvant aller jusqu'à 300 euros.
Et enfin, les ailes du célèbre Moulin Rouge se sont effondrées la nuit dernière. Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les raisons de cet incident restent pour l'heure inconnues, mais la direction de l'établissement exclut tout acte malveillant. C'est la première fois qu'un accident de ce type se produit depuis la création du cabaret. C'était il y a près de 135 ans. Maxime Lavandier.
Le Moulin Rouge, dépossédé de ses ailes. Tombées dans la nuit, elles ont endommagé dans leur chute la devanture du célèbre cabaret. Recouvertes par une bâche verte, les ailes cassées ont par la suite été évacuées à l'arrière de ce camion Ben, sous les yeux des passants et habitants du quartier.
Habite juste à côté, c'est comme quelque chose de familier qui a disparu, voilà.
Moi je passe assez souvent ici parce que c'est mon trajet pour le bureau. Assez bizarre de le voir comme ça, sans les ailes.
C'est comme un monument de Paris, comme la Tour Eiffel. Ça fait mal au cœur.
Aucun blessé n'est à déplorer, mais un périmètre de sécurité avait été mis en place pour prévenir tout risque d'une éventuelle nouvelle chute. Si les raisons de cet incident sont encore inconnues, la direction du Moulin Rouge exclut tout acte malveillant et assure que l'incident a été causé par un problème technique.
Le Moulin Rouge, en 135 ans d'histoire, a connu beaucoup d'aventures, mais c'est vrai que pour le coup des ailes, là, c'est la première fois que ça arrive. On les a changées il y a 20 ans, pas plus de 20 ans, donc c'est déjà arrivé de voir le Moulin Rouge sans ses ailes, mais pas dans ce contexte-là.
Situé au pied de la butte de Montmartre, le cabaret est mondialement connu pour ses spectacles de French Cancan.
Allez, vous restez bien avec nous sur CNews, votre journal des sports, dans un instant. Et on commence ce journal des sports avec du football et la Première Ligue. Ce jeudi, Manchester City a dominé Brighton 4-0. Les Citizens, qui comptent toujours un match en retard, reviennent à un petit point du leader Arsenal. Malgré leur élimination en Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola peuvent toujours réaliser le doublé coupe et championnat. Résumé de ce match, Marco Maricic.
Même sans Erling Haaland blessé, City n'éprouve aucune difficulté. Car quand le meilleur buteur n'est pas là, c'est l'habituel passeur qui finit les actions.
Kevin De Bruyne de la tête.
Ouh, magnifique.
Et Kevin De Bruyne, l'aigle royal.
Les Citizens mènent déjà 1-0 à Brighton après 17 minutes grâce au premier but de la tête en Première Ligue de Kevin De Bruyne. En moins d'une demi-heure, les Mancuniens réalisent même le break. 2-0 suite à ce coup franc frappé par Phil Foden et contré par le dos de Pascal Gross. La joie de Pep Guardiola est mesurée. Car le spectacle n'est pas terminé.
La punition.
Doublé et 16e but de la saison pour le milieu anglais, City mène 3-0 à la pause. Les hommes de Pep Guardiola sont en démonstration et même Julian Alvarez, qui n'a plus marqué depuis 3 mois en championnat, y va de son but. 4-0, les Sky Blues passent devant Liverpool au classement et reviennent à un point d'Arsenal avec un match en moins. Le quatrième titre consécutif est à portée de main.
Allez, on passe au tennis dans ce journal des sports et au retour gagnant de Rafael Nadal à Madrid. Ce jeudi, l'Espagnol a facilement dominé le jeune Américain Darwin Blench. Une victoire expéditive, deux petits sets, 6-1, 6-0. À bientôt 38 ans, l'ancien numéro 1 mondial dispute son dernier tournoi madrilène. Au prochain tour, il sera opposé à Alex de Minaur, l'Australien qu'il avait d'ailleurs éliminé il y a une semaine à Barcelone. On va écouter Rafa Nadal juste après son match.
It's great, no? For me, you know, after how the things developed the last few years, every time that I had the chance to be on court on this amazing stadium with you know an unconditional supportive crowd means a lot to me now. So we're just trying to enjoy every moment, and tomorrow one more day of practice here, and after tomorrow again on court. So that makes me feel great.
Et puis plus qu'un petit mois avant le début de Roland-Garros, Porte d'Auteuil, Amélie Mauresmo a dévoilé ce jeudi les contours de la prochaine édition de Roland-Garros. Elle est revenue sur la participation de Raphaël Nadal, 14 fois vainqueur, Porte d'Auteuil, écoutez.
Évidemment, on croise les doigts, pour lui surtout, pour nous aussi évidemment, parce qu'on a envie de l'accueillir de nouveau ici à Roland-Garros. Il est chez lui, il le sait. Savoir s'il y aura un hommage, pas d'hommage cette année, l'année prochaine, etc. Je crois que tout ça, c'est très dépendant de lui, surtout, et des décisions qu'il prendra et de ce qu'il va décider. Donc nous, on attend un petit peu de voir et on suivra surtout ses souhaits à lui.
Et on termine ce journal des sports avec de la MotoGP. Ce dimanche, direction le Grand Prix d'Espagne pour les pilotes. Depuis le début de la saison, c'est le jeune prodige Pedro Acosta, âgé de 19 ans seulement, qui affole le paddock. Il sera l'attraction de cette course dominicale devant son public à lui. Le Français Johan Zarco nous en dit un petit peu plus sur cette nouvelle pépite de la MotoGP.
Étonné, non. J'adore, parce que bon, j'avais annoncé déjà l'an dernier. J'avais dit il faut que je gagne avant qu'Acosta arrive, sinon ça va être dur. Il est arrivé et on voit qu'il fait déjà mal au grand nom. Il fait des choses naturellement et que certains doivent réfléchir pour le faire. Et ça c'est juste un des nouveaux génies. C'est une nouvelle génération de top pilotes et c'est beau à voir.
Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Kenji Girac a voulu simuler un suicide. C'est ce qu'a affirmé le procureur de la République de Mont-de-Marsan ce jeudi après-midi. On revient donc sur cette information majeure dans un instant dans notre prochain journal. Très belle nuit à toutes et à tous sur notre antenne. Et je vous dis donc à tout de suite pour une prochaine édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.